Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beaucé-Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Heuvels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous allons voir Jésus. Jésus est le berger, Jésus est la porte. Et la première lecture sera dans les Actes des Apôtres.
Donc Actes chapitre 2, tout d'abord les versets 14 à 21. Alors s'éleva la voix de Pierre qui était là avec les onze. Il s'exprima en ces termes. « Hommes de Judée et vous tous qui résidez à Jérusalem, comprenez bien ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens n'ont pas bu comme vous le supposez. Nous ne sommes en effet qu'à 9 heures du matin. Mais ici se réalise cette parole du prophète Joël. Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Vos fils et vos filles seront prophètes. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils seront prophètes. Je ferai des prodiges là-haut dans le ciel et des signes ici-bas sur la terre, du sang, du feu et une colonne de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant que vienne le jour du Seigneur, grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et puis, dans le même chapitre 2, les versets 36 à 41. « Que toute la maison d'Israël le sache avec certitude, Dieu l'a fait et Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Le cœur bouleversé d'entendre ces paroles, ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Que ferons-nous, frères ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car c'est à vous qu'est destinée la promesse, et à vos enfants, ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles, Pierre rendait témoignage et les encourageait. « Sauvez-vous, disait-il, de cette génération dévoyée. » Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême et il y eut environ 3000 personnes ce jour-là qui se joignirent à eux.
Nous allons maintenant écouter dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10, les versets 1 à 21. En vérité, je vous le dis. » Celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Celui qui garde la porte lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Les brebis qui lui appartiennent, il les appelle chacune par son nom, et il les emmène dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche à leur tête et elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger. Bien plus, elles le fuiront parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas la portée de ce qu'il disait. Jésus reprit, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer et pour perdre. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, qui n'est pas vraiment un berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit-il venir le loup ? Il abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et que peu lui importent les brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent comme mon Père me connaît et que je connais mon Père. Et je me dessaisis de ma vie pour les brebis. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, et celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime, parce que je me dessaisis de ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je m'en dessaisis de moi-même. J'ai le pouvoir de m'en dessaisir, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. » Ces paroles provoquèrent à nouveau la division parmi les Juifs. Beaucoup d'entre eux disaient « Il est possédé, il déraisonne, pourquoi l'écouter ?» Mais d'autres disaient « Ce ne sont pas là à propos de posséder. Un démon pourrait-il ouvrir les yeux d'un aveugle ?»
Et enfin, la dernière lecture du jour est le psaume 23, psaume de David. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur de frais herbages, il me fait coucher, près des eaux du repos, il me mène, il me ranime. Il me conduit par les bons sentiers pour l'honneur de son nom. Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton, ton appui, voilà qui me rassure. Devant moi, tu dresses une table. Face à mes adversaires, tu parfumes d'huile ma tête. Ma coupe est enivrante. Oui, bonheur et fidélité me poursuivent tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour de longs jours.
L'Évangile de Jean nous propose, avec les textes du jour, une double parabole. La parabole du berger et la parabole de la porte. La deuxième venant compléter et tenter d'expliquer la première que les auditeurs et les disciples n'avaient pas bien comprise.
Mais pourquoi le berger et pourquoi la porte? Dans une civilisation de nomades éleveurs, l'image du berger se charge de symbolisme religieux. Dans le psaume 23 que nous venons de lire, c'est Dieu qui est le berger d'Israël. Il conduit son troupeau, veille sur lui et le protège. Les rois dans l'Ancien Testament étaient des bergers, choisis par Dieu, à qui seul appartient le troupeau.
Puis arrive Jésus-Christ, Fils de Dieu, le bon berger. Le symbolisme du berger comporte aussi un sens de sagesse intuitive et expérimentale. Le berger symbolise la veille. Sa fonction est le constant exercice de vigilance. Il est éveillé et il voit. Par ailleurs, Le berger, symbolisant le nomade, comme il a été dit, est privé de racines. Il représente l'âme qui, dans le monde, n'est jamais indigène, mais toujours de passage.
À l'égard de son troupeau, le berger exerce une protection liée à une connaissance. Il sait quelle nourriture convient aux animaux dont il a la charge. Il est observateur du ciel, du soleil, de la lune et des étoiles. Il peut prévoir le temps. Il discerne les bruits et entend venir les loups ou bêler la brebis égarée. Émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, avec à la technique Simon Martin. Nous vous parlons aujourd'hui des deux paraboles du bon berger et de la porte. Les extraits musicaux sortis de la cantate 140 de Jean-Sébastien Bach, la cantate du Veilleur, par Nicolas Arnoncourt et Gustave Léonard.
Jésus le berger, nous ses brebis, l'Église la bergerie, ou un milieu fermé peut-être, clos de murs, protégé, une sorte de ghetto-église ? Non, certainement pas. L'église qui s'est créée à Pentecôte, dans la chambre haute, n'est pas restée enfermée derrière une solide porte close. Jésus n'a jamais rassemblé ses disciples dans un lieu clos, mais les a toujours appelés à sortir. Viens, sors, suis-moi, viens sur le chemin, car vois-tu, je suis le chemin.
L'Église véritable commence à partir du moment où les disciples sont dehors, sur le chemin, avec Jésus. Être Église, c'est donc non pas être une bergerie, mais sortir de la bergerie. Pour Jésus, le troupeau n'est pas un rassemblement impersonnel, dépersonnalisant, nivelé par le bas en une masse informe, amorphe, passive, sous les ordres d'un dictateur ou d'un chien de garde.
Toute la parabole et tout le discours de Jésus sur le berger et les brebis ont plutôt une connotation concrète, polémique et même politique. La fonction de berger, on l'a vu, désignait dans l'Ancien Testament un des titres royaux portés en Israël par Dieu et par la royauté de David, qui en était le représentant visible. En s'arrogeant la fonction du bon berger, bon étant pris dans le sens du seul, du vrai, l'unique, Jésus réclame pour lui la dignité royale et le titre de Messie. C'est pourquoi les pharisiens crieront au blasphème et voudront le lapider.
Des messies bergers politiques de tendance zélote ou pharisienne avaient surgi avant Jésus et surgissaient de temps en temps. C'est en parlant d'eux que Jésus évoque des voleurs et des brigands, traduisait des usurpateurs et des chefs de bande. Et le bon berger mène dehors, un mot hébreu qui comporte le même préfixe « ek » qu'ecclésia, « église », qui signifie « dehors », « hors d'eux », montrant bien par là que l'église n'est pas l'enclos, mais une sortie, un exode derrière le Christ.
Et Jésus fait sortir ses brebis. Il marche devant. Elles le suivent, car elles connaissent sa voix. Et tout à coup surgit devant nous une évidence. L'Église n'est pas un lieu, mais un lien personnel qui relie chaque brebis, appelée par son nom, à Jésus.
Par son nom. Chacun de nous est appelé par son nom. Chacun de nous est appelé à suivre le berger hors de l'enclos, à faire le premier pas, hésitant pour certains, puis d'autres pas, plus assurés, pour avancer, pour progresser, pour trouver la nourriture de vie. Tous ensemble, nous constituons le troupeau, l'Église, avec ses pasteurs, ses prêtres, ses ministres, ses serviteurs, chacun étant appelé personnellement par son nom en tant que brebis, lui-même, au sein d'un peuple en marche.
C'est notre risque, notre dignité et notre responsabilité, au milieu de bien des tentations ou des usurpations qui voudraient prendre la place du Christ. Mais Jésus nous dit, les brebis ne suivront pas un étranger, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voie des étrangers.
Ce qui est étonnant ensuite, c'est que Jésus, voyant que ses auditeurs n'avaient pas compris le sens de sa parabole, leur offre une deuxième image en leur disant « en vérité, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. » Pas celle de l'enclos ou de la bergerie, mais la porte des brebis, du troupeau, c'est-à-dire la possibilité pour nous d'entrer dans la vie, l'ouverture vers la liberté. Si quelqu'un entre par moi, dit Jésus, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages.
Entrer et sortir, c'est une expression hébraïque qui évoque la liberté de se mouvoir dans l'Ancien Testament. C'est le privilège d'une personne libre, contrairement à l'esclave ou aux prisonniers enchaînés qui ne peuvent se déplacer librement. L'extraordinaire de cette seconde image de la porte, c'est que suivre le berger n'est pas une atteinte à la liberté de la brebis, mais bien au contraire, ce qui fonde et rend possible cette liberté.
La porte symbolise le lieu de passage entre deux états, entre deux mondes, entre le connu et l'inconnu, les ténèbres et la lumière. La porte ouvre sur un mystère, mais elle a une valeur dynamique, psychologique, car non seulement elle indique un passage, mais elle invite à le franchir. C'est une invitation au voyage.
Dans les traditions juives et chrétiennes, l'importance de la porte est immense, puisque c'est elle qui donne accès à la révélation. Sur elle viennent se refléter les harmonies de l'univers. Des portes de l'Ancien Testament et de l'Apocalypse, tel le Christ en majesté et le jugement dernier, accueille le pèlerin et les fidèles dans nos cathédrales. Suger disait aux visiteurs de Saint-Denis, qu'il convenait d'admirer la beauté de l'œuvre accomplie et non la matière dont a été faite la porte. Il ajoutait que la beauté qui illumine les âmes doit les diriger vers la lumière dont le Christ est la véritable porte.
Le berger Jésus, en se présentant ici comme la porte des brebis, s'efface en quelque sorte volontairement, comme à Emmaüs. Il est porte ouverte, c'est-à-dire absence volontaire. Pas seulement une porte pour entrer dans la bergerie, mais surtout une porte pour pouvoir en sortir, pour qu'en passant par la porte, en traversant la personne du Christ, nous redevenions nous-mêmes, nous vivions une vie pleine, épanouie, riche, responsable, harmonieuse.
Jésus est la porte. Il est celui qui meurt et ressuscite pour nous, qui disparaît volontairement pour que nous puissions passer, pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions avoir la vie en abondance.
Il nous livre sa vie, il s'en dépouille pour nous en enrichir. C'est le mystère du don de sa vie, mystère que nous célébrons chaque fois que nous participons à la scène où il nous invite. Prenez, mangez, ceci est mon corps, ceci c'est moi. Entrez par la porte, entrez dans la vie. Moi, je suis le bon berger, le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis.
Ce qu'il faut souligner ici, c'est qu'il n'y a qu'un pasteur et un seul dans l'Église pour son troupeau, Jésus-Christ. C'est le même pasteur pour toutes les brebis, pour tous les disciples, les catholiques, les protestants, les orthodoxes et tous les autres. Un seul pasteur. C'est pour cela que nous pouvons croire à l'unité de l'Église, que nous devons croire à l'œcuménisme. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger.
L'apôtre Paul et les premiers missionnaires ont réalisé cette promesse de Jésus. Les autres brebis, appartenant aux nations païennes, se sont ajoutées aux premières venues du peuple d'Israël. Aujourd'hui, la promesse et l'appel continuent à garder leur actualité. Et notre propre paroisse comprend des membres venant de tous horizons, ce qui est très réjouissant.
Aujourd'hui, les frontières de l'Église de Jésus-Christ continuent à être ouvertes et à se déplacer constamment, comme cette porte ouverte du Christ berger, qui semble se déplacer tout le temps sur le chemin pendant la marche.
Et s'il y a des évêques, des prêtres, des missionnaires, des pasteurs dans l'Église, ils ne sauraient l'être qu'au service du seul pasteur, de celui qui n'a jamais voulu être rien d'autre que berger, serviteur. Les pasteurs de l'Église n'ont d'autre autorité et d'autre dignité que d'être eux-mêmes des brebis appelées, pardonnées, sauvées et réhabilitées.
Et maintenant, entendez la voix de celui qui vous appelle à la liberté, à la vie, à la découverte des autres, de tous les autres, chrétiens et non-chrétiens. Non, l'Évangile n'est pas un carcan, il n'est pas un enfermement, comme une prison qui sentirait la peur et le renfermer.
Jésus vous appelle à le suivre sur le chemin de la vie vers le grand large. La foi en Dieu, ça ne sert à rien, mais ça change tout, disait un texte du Hortoir. La foi en Dieu, le baptême, permet de sortir de nos vies étriquées dans l'enclos, de la fausse sécurité, tel Jonas au fond de sa cale, pour marcher sur le chemin de nos vies, éclairés et guidés par le Christ. C'est le même chemin, mais avec une autre façon de le parcourir, avec un autre regard sur soi-même et sur les autres. Vous ne serez pas seul, vous serez avec tous les autres, visibles et invisibles, présents et absents. Vous serez avec celui qui est vivant, Jésus-Christ mort et ressuscité.
Celui qui appelle chacun de nous par son nom, par son prénom, ce prénom qu'on a reçu lors du baptême, celui qui a dit « N'ayez pas peur, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Celui-ci est le bon berger. Il est la porte de la vie. Entrez dans la vie. Amen.
Amen.
Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matins à 10h30 au temple, 20 rue Saint-Thomas à Chartres. Au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.